no.
Say yes or no. Yes or no.
La question que nous vous posions était la suivante. Israël peut-il, oui ou non, faire confiance à la Turquie? Votre vote est sans appel. 97% de non sur Facebook et 100% de non à la fois sur Instagram et sur X. Alors, on va tâcher d'en savoir un peu plus, car en Israël, l'implication de la Turquie à Gaza ne fait pas que des heureux non plus. D'où cette question du jour. Et Rémi Daniel répond à cette épineuse question. Il est spécialiste de la Turquie et l'invité de la question du jour. On écoute Rémi Daniel est au micro de Lise Benkemoun.
Rémi Daniel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Vous êtes chercheur à l'INSS et spécialiste de la Turquie. Rémi, ce matin, on a posé comme question du jour à nos auditeurs, Israël peut-il faire confiance à la Turquie? Qu'est-ce que vous en dites?
Bien, fondamentalement, je pense qu'il n'y a aucune raison de faire confiance à la Turquie. Alors, c'est vrai que la Turquie a joué un rôle crucial pour la libération des otages en mettant une pression parallèle à celle du Qatar sur le Hamas et en permettant ce changement de position de l'organisation terroriste. Mais tout ce qui concerne la seconde étape du plan de Trump, on voit que la Turquie reste un acteur très problématique pour Israël. Erdogan n'a pas changé de position fondamentale. Il est un soutien du Hamas, il reste un soutien du Hamas. Et c'est pour ça que une présence ou un rôle turc dans tout ce qui va être lié à Gaza est quelque chose qui est assez dangereux pour Israël.
Alors, pour l'instant, les Turcs sont surtout présents pour aider à récupérer les corps des otages sur le terrain. Donc ça, c'est pas dangereux. Mais on voit bien la volonté de Washington, Rémi, de les impliquer largement plus dans le futur de Gaza.
Oui, tout ce dont nous parlons est lié au fait que Erdogan a une très très bonne relation avec le président Trump et qu'il est donc très apprécié. Et les Américains, dont le plan est encore assez vague, hein, on ne sait pas encore quel pays va avoir quel rôle dans le règlement politique de la situation à Gaza, mais les Américains sont en effet très prêts à donner un rôle important aux Turcs, peut-être même dans la force multinationale qui doit remplacer Tsahal après le retrait de l'armée israélienne. Une présence turque politique ou militaire, au-delà de la présence humanitaire, serait un vrai défi de sécurité pour Israël.
Alors, il y a deux autres sujets qui sont actuellement liés à la Turquie et un peu étonnants. Le premier, c'est qu'Israël a autorisé, à la demande officielle de la Turquie, le retour de 16 membres de la famille d'Ismaël Haniyeh qui ont donc été exfiltrés de Gaza, visiblement comme bonne volonté, en tout cas c'est ce que rapporte la presse turque, à l'égard de Recep Tayyip Erdogan. Une évacuation très controversée en Israël que plusieurs jugent totalement incompréhensible au vu d'Ismaël Haniyeh dans les massacres du 7 octobre. À quel point c'est important pour Israël de faire baisser la tension diplomatique avec Ankara?
C'est très important parce qu'il se passe deux choses. D'une part, il y a un renforcement de la Turquie, un renforcement de la Turquie au niveau mondial avec les bonnes relations entre la Turquie et Trump que j'évoquais, avec aussi le changement de ton des Européens qui ont tellement de problèmes qu'ils n'ont pas envie de s'opposer à Ankara. Il y a aussi un changement de la position de la Turquie au niveau régional, avec un rapprochement que l'on observe entre la Turquie et les pays arabes, d'ailleurs en partie à cause des conséquences négatives de l'attaque israélienne sur Doha. Et au moment où la Turquie se renforce, elle se rapproche d'Israël, elle est en Syrie, elle va peut-être rentrer à Gaza, et cela nous montre à quel point les rapports de force ne sont pas en faveur d'Israël dans ce rapport de force avec la Turquie, et donc il y a une volonté israélienne, en effet, de faire des gestes vis-à-vis de la Turquie. Le contraire n'est pas tout à fait vrai.
Alors justement, Amichai Shikli, le ministre israélien des Affaires de la Diaspora, fustige le président turc Recep Tayyip Erdogan et notamment des paroles qu'il a prononcées en 2025 dans lesquelles il demandait, je cite, que l'Israël sioniste soit détruit et dévasté. Et il a aussi accusé le dirigeant turc d'être un djihadiste en costume.
Oui, alors bon, les déclarations d'Erdogan sont vraies et cela nous prouve à quel point la position turque est une position extrême et qui n'a pas changé et qui ne change pas. En ce qui concerne Mihai Shikli, si on est très honnête, c'est un ministre dont les actions sont quand même nulles. On ne sent pas vraiment la présence d'Mihai Shikli sur le terrain et qui essaye de compenser par des tweets incendiaires contre des personnalités du moment. Il est vrai aussi que l'opinion publique israélienne n'aime pas du tout le président Erdogan. Et j'imagine que, avec ces petits tweets qu'ils vont avoir aucun impact sur le contenu des relations entre les deux pays, Mihai Shikli essaye de séduire sa base électorale. Bon, c'était de la démagogie politique plus qu'autre chose, même si, encore une fois, le fait que Erdogan soit un anti-israélien extrémiste ne fait de doute pour personne.
Alors, dans ce que fustigeait Amichai Chikli, il y avait aussi ces déclarations qu'avait eues Erdogan et qui avaient fait beaucoup de bruit à l'époque en 2020, quand Recep Tayyip Erdogan avait dit « Jérusalem est notre ville, notre première Qibla ». Et Amichai Chikli rappelle que Jérusalem est la capitale d'Israël depuis l'époque du roi David, soit 2500 ans avant l'occupation ottomane. On sent que ça, c'est un point de discorde entre Israël et la Turquie qui, a priori, n'a pas de solution, Rémi Daniel.
En effet, ça n'a pas de solution, mais je pense que d'ailleurs, là, de ce point de vue-là, c'est dans les deux cas, juste des discours qui cherchent à séduire avant tout les bases intérieures. C'est-à-dire que Erdogan a fait Jérusalem. D'ailleurs, ça fait de nombreuses années que c'est le cas. Hein. C'est à peu près à partir du moment où Trump, dans son premier mandat, a décidé de bouger l'ambassade américaine à Jérusalem. Erdogan s'est reconnecté avec tout le discours islamiste sur Jérusalem. Encore une fois, face à lui, enfin, il faut être très honnête, on a le président de la Turquie et on a un petit ministre israélien. Je pense qu'il ne faut pas non plus les mettre au même plan, mais c'est sûr, Jérusalem est une ville qui, pour beaucoup de gens, a un fort pouvoir symbolique et émotionnel et qui est utilisé à des fins politiques.
Alors tout de même, Rémi, pendant des années, il y avait une espèce de paix froide, même s'il y a eu des tas d'épisodes différents dont on a déjà parlé sur cette enquête. Il y a un mois, la Turquie avait quand même annoncé une rupture totale de ses relations avec Israël, hein, notamment au niveau économique et commercial. Et le symptôme de ça, c'était tout de même de fermer son espace aérien aux avions israéliens, alors que très honnêtement, ça a des répercussions importantes sur les liaisons aériennes entre Israël, l'Europe et l'Asie.
Oui, alors, vous faites allusion, en fait, à des déclarations du ministre des Affaires étrangères turc,
Oui.
Hakan Fidan, qui en effet a dit ça. Et en fait, il y a deux choses. Il y a, d'un point de vue économique et du commerce, c'est vrai que la Turquie est le pays qui est allé le plus loin, puisque c'est le seul pays qui avait des relations économiques avec Israël avant le 7 octobre et qui a décidé un embargo complet. D'ailleurs, il y a aussi, là aussi, une espèce de radicalisation de la Turquie qui maintenant interdit même aux bateaux qui pourraient passer par Israël d'entrer dans les ports turcs. En ce qui concerne l'espace aérien, après le même ministre, en tout cas ses agents, ont fini par dire que non, il ne s'agissait pas de la fermeture totale à tous les avions israéliens, mais seulement aux avions officiels. Donc la situation est moins grave que ce qu'on pensait. Mais c'est clairement aussi l'illustration de la position turque qui essaye depuis le 7 octobre de se présenter comme la plus radicale contre Israël pour être le modèle de l'opposition à Israël dans le monde musulman, avec plus ou moins de succès, mais ça fait partie du discours officiel turc en effet.
Alors là-dessus, c'est vrai que c'était symbolique mais important parce que si les avions israéliens ne peuvent pas survoler la Turquie, ça allonge des trajets pour plein de destinations, ça augmente le coût des vols des compagnies israéliennes, ça a souvent aussi pour résultat que les touristes se disent que c'est trop cher ou trop compliqué et ne viennent pas, même si aujourd'hui avec la trêve, des gens auraient peut-être plus envie de venir en Israël. Donc pourquoi depuis justement la trêve et la libération des otages, on ne sent pas forcément beaucoup de bonne volonté du côté turc.
Bon, encore une fois, du point de vue des avions, les avions israéliens passent l'espace aérien turc. C'est juste les avions officiels qui ne peuvent pas passer. Et d'ailleurs, par contre, il est vrai que Turkish Airlines et les autres compagnies turques qui volaient très régulièrement depuis et vers Tel Aviv n'ont pas repris leur vol. Et ça, c'est un problème. Même si maintenant, nous avons des alternatives en passant par les Émirats ou la Grèce et Chypre. Donc, la situation est un peu ambiguë de ce point de vue-là. Mais ce qui est sûr, c'est que pour les Turcs, en tout cas, la guerre n'est pas finie. Ils le disent, ils veulent une paix. D'ailleurs, sur la base de la solution à deux États, hein, on ne parle pas de l'Iran, donc il y a même toujours l'idée qu'Israël a le droit d'exister, malgré tout. Mais pour eux, et c'est ça un peu l'ambiguïté du plan Trump, il y a une première étape qui a été faite. Tant que la deuxième étape n'arrivera pas, les Turcs garderont une certaine distance, même si certaines rumeurs a confirmé et évoque le fait que peut-être que dans les prochains mois, un certain nombre de contacts seront renouvelés entre la Turquie et Israël.
Justement, ce sera ma dernière question, Rémi Daniel. Les opposants, les mauvaises langues, peut-être disent que le président turc ne se contente pas de faire des discours nostalgiques sur la grandeur ottomane, mais qu'il essaye d'avoir une stratégie d'encerclement idéologique, militaire et même territorial d'Israël, avec la Syrie au nord, Gaza et le Qatar au sud, la Libye à l'ouest, Jérusalem et la Jordanie, et tout ça avec une doctrine islamiste radicale inspirée des frères musulmans. Vous en dites quoi?
Ah, ben, la stratégie Erdogan, on pourrait passer une heure d'émission à en parler. Ce qui est sûr, c'est que, un, au point de vue du Moyen-Orient, Erdogan le dit de manière de plus en plus claire. Pour lui, la menace principale, le danger principal, l'ennemi principal, d'une certaine manière, c'est Israël. Il est sûr aussi qu'il est en train d'améliorer ses relations avec un certain nombre de pays et qu'il a réussi à avoir un certain nombre de victoires tactique en Syrie, leur rapprochement avec le Qatar fonctionne bien. Maintenant, s'il arrive à Gaza, il est sûr que ce sera quelque chose d'assez positif pour lui. Ce qui concerne des pays comme la Jordanie et l'Égypte, il y a là des pays qui sont un peu plus hésitants vis-à-vis d'Erdogan. Et c'est peut-être finalement la vraie occasion à saisir pour Israël. La montée de la Turquie sur une base proche des frères musulmans qui se renforce. C'est quelque chose qui n'inquiète pas seulement les Israéliens, mais un certain nombre de pays arabes dits sunnites modérés. Et c'est peut-être en parlant plus avec ces pays arabes qu'on arrivera à freiner l'expansionnisme turc.
Et même du côté maritime, on parle d'un couloir qui empiète sur les eaux grecques et chypriotes. Peut-être qu'à terme, ça va aussi menacer Israël par la mer?
Ah, il y a énormément de points de friction possibles. Mais cela est lié aussi, d'ailleurs, ce n'est pas forcément d'ailleurs lié à l'islam de la Méditerranée, c'est plus lié à des frictions historiques avec Chypre et la Grèce. Mais la dynamique est la même. Erdogan se sent de plus en plus fort, il a des revendications de plus en plus marquées, mais un certain nombre de pays autour de lui commencent aussi à être de plus en plus inquiets. Et donc, je pense qu'un des grands défis d'Israël, c'est pas seulement de réfléchir à comment militairement arrêter la Turquie, mais comment politiquement, diplomatiquement, parler à des pays qui ont des intérêts similaires pour voir quelles sont les coopérations possibles face à un pouvoir turc qui, en effet, est de plus en plus fort et de plus en plus révisionniste.
Donc, engager peut-être un front de résistance avec la Grèce et Chypre, l'Égypte et peut-être même la Jordanie.
Ce qui se passait plus ou moins au début des années 2020 avec les accords d'Abraham et ce qui s'appelait le Forum du gaz de l'Est méditerranéen. Mais pour cela aussi, il faut bien comprendre qu'Israël devra faire un certain nombre de concessions sur la situation à Gaza, sur la situation avec les Palestiniens, qui reste un obstacle à un rapprochement plus grand avec les pays arabes modérés et les pays européens dont Israël a bien besoin. Parce que se fonder uniquement sur les bonnes relations avec Trump, quand Trump finalement impose sa vision à Israël plus que l'inverse, c'est un petit peu dangereux sur le long terme.
Merci beaucoup Rémi Daniel pour toutes ces analyses. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'INSS et spécialiste de la Turquie. Bonne journée à vous, à très vite.
Bonne journée, à bientôt.